Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Marion Calais, Julien Cellier, bonsoir à vous deux.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour 2 heures d'info. On va décrypter ensemble l'actualité, faire en sorte que vous puissiez tout comprendre. À la une, le récit sidérant de notre envoyé spécial en Floride. Nous serons en ligne avec Lionel Gendron dans un instant. Il couvrait pour RTL le passage dévastateur de l'ouragan. Sa voiture a été emportée par les eaux. Il s'est extrait par la fenêtre avant de nager pour regagner la terre ferme. Les autres titres de l'actu, Marion.
L'arrestation en Belgique de l'imam Iquissen. Il avait pris la fuite il y a un mois après la validation par le Conseil d'État de son expulsion. L'annexion signée par Moscou aujourd'hui. Aujourd'hui, des 4 territoires ukrainiens, discours de Vladimir Poutine en début d'après-midi, le maître du Kremlin qui a livré une violente charge contre l'Occident.
À 18h15 d'ailleurs, Vladimir Fedorovski, ex-diplomate russe sous Gorbatchev, sera avec nous. À 18h30, est-ce que les Bleus doivent sortir de leur silence avant le polémique mondial au Qatar? C'est en tout cas l'appel de Vikash Dorasso, l'ex-joueur de l'équipe de France sera notre invité. 18h40, on va refaire nos régions, les 20 minutes sympas, près de chez vous, comme chaque vendredi.
Qui nous font toujours du bien, rencontre entre un réfugié ukrainien et un boulanger en Charente-Maritime. On ira retrouver Zaza l'autruche polémique du Pays Basque et puis une tarte aux myrtilles en altitude dans les Vosges.
À 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et ses camarades de la presse étrangère et puis le temps 2 fois par demi-heure avec Valérie Quintin. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Tendance pour demain.
Eh bien, la pluie arrive par le nord-ouest à l'heure qu'il est et demain, elle va traverser le pays vers le sud.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Un mois après sa fuite, l'imam Iquissen vient donc d'être arrêté.
Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
C'est donc en Belgique que l'imam du Nord, visé par un arrêté d'expulsion validé fin août par la justice pour des propos antisémites et homophobes, a été retrouvé.
Oui, il a été interpellé par les policiers belges à la mi-journée, arrêté à Jemappes, à l'ouest de la ville de Mons, à moins de 50 km de son domicile de Lourches, où il vivait avant sa fuite. Selon nos informations, l'imam n'a opposé aucune résistance au moment de son interpellation. Il est désormais entre les mains des policiers belges. La prochaine étape devrait être son extradition vers la France. La justice avait émis un mandat d'arrêt européen contre Hassan Iquissen, introuvable depuis exactement un mois, date à laquelle le Conseil d'État avait entériné l'expulsion de l'imam.
Que va-t-il se passer maintenant?
Alors les Français attendent l'exécution du mandat et c'est le juge d'instruction de Valenciennes en charge du dossier qui décidera des suites. En France, Hassan Iquissen est poursuivi pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. C'est un délit qui est passible de 3 ans de prison ferme, mais un délit que conteste son avocate puisque, selon elle, l'imam avait déjà quitté la France au moment où son expulsion avait été entérinée.
Arrestation donc de l'imam Iquissen et ses précisions de Guillaume Chiez, merci.
RTL Soir.
Et à 18h03, on prend à présent la direction de la Floride et des États-Unis où les plages par endroits semblent avoir reculé de plusieurs dizaines de mètres après le passage de l'ouragan Ian.
Qui continue sa route vers le nord, laissant derrière lui de l'eau, du sable, des débris, des fondations en lieu et place des ponts ou des maisons, notamment sur la côte occidentale de cet État. Dégâts immenses et pour l'heure 21 morts recensés.
Bilan extrêmement provisoire pour l'instant. Bonsoir Lionel Gendron.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors vous êtes notre envoyé spécial pour RTL en Floride et vous avez tenté la nuit dernière en couvrant les dégâts de l'ouragan de rejoindre les zones les plus durement touchées et vous-même, vous vous êtes retrouvé sur la route, prise au piège. Racontez-nous ce qui s'est passé exactement. Votre voiture a été emportée, c'est ça ?
Oui, elle était emportée. En fait, je revenais d'un reportage. J'avais rencontré des gens dans ces cas-là. Vous savez, vous voulez aller voir ce qui se passe. Et parmi les témoignages, beaucoup me disaient que ils avaient peur d'être encerclés par les eaux. Notamment une mère de famille qui me disait que il y a 6 accès pour arriver à sa maison et que si l'eau montait, il y avait aucun moyen pour elle de sortir. Et une autre personne me racontait qu'elle a mis 6 heures pour trouver un chemin pour sortir. Donc je me suis dit, ça c'est quand même intéressant à raconter. Donc c'est vraiment cette histoire que je voulais raconter. Et en partant pour rentrer à l'hôtel, j'ai pas pris le même chemin qu'à l'aller et à un moment je me suis retrouvé donc sur une route inondée. Le jour tombait un peu, donc ce qui explique peut-être aussi que j'ai pas tout à fait apprécié, mais ça a commencé tout à fait normalement, au niveau des roues ça passait, et au bout de 50 mètres, tout d'un coup la voiture s'enfonce de 50 cm, l'eau rapidement est rentrée dans l'habitacle, j'ai essayé d'accélérer, mais le moteur bien évidemment a été noyé, j'ai voulu ouvrir la portière, impossible avec la pression de l'eau, il y a eu 3 secondes un petit peu compliquées, parce que dans la précipitation, j'ai j'ai bloqué le système centralisé, donc la fenêtre, eh ben, j'arrivais pas à l'ouvrir. Donc là, vous vous dites, oh, ça c'est une scène que j'ai vue dans les films, j'ai pas vraiment envie de la revivre. Finalement, j'ai pu l'ouvrir, sortir par la fenêtre. Il y avait un policier qui n'était pas très loin, qui est venu à ma rencontre et qui m'a un peu guidé, qui m'a dit, attention, là maintenant, il faut aller sur le toit. Et là, il m'a intimé l'ordre, hein, parce qu'il a vraiment pris la main, dit, maintenant, il faut plonger, il faut que vous alliez vers moi. Il y a du courant, il va falloir nager très fort. J'étais pas très loin, donc j'ai dû faire trois mouvements. Donc là, vous vous dites, tant pis, hein, elle est froide, elle est sale, c'est pas très grave. J'ai plongé vers lui, c'est un colosse de 2 mètres. Il m'a tout de suite attrapé le bras, m'a tiré de là, et je remercie évidemment le shérif adjoint Mills.
Bon, on remercie aussi le shérif adjoint Mills, parce que vous avez dû avoir une sacrée frayeur, et nous aussi on a eu une sacrée frayeur, Lionel. Mais au-delà de cet incident qui vous a, on l'a compris, beaucoup marqué, qu'est-ce que vous avez pu voir ces dernières heures ? Parce qu'on a eu beaucoup de mal à vous joindre tout au long de la journée, tant le courant ne passe plus.
Oui, ça c'est effectivement, quand il y a des ouragans comme ça, des tempêtes, on voit les effets immédiats qui sont évidemment catastrophiques, impressionnants et souvent mortels. L'après, on le voit, mais c'est toujours compliqué à appréhender. D'ailleurs, l'un des policiers, parce que deux policiers m'ont ramené à l'hôtel, m'ont raconté qu'il y avait plus de morts après que pendant. C'est par exemple des gens qui ne peuvent pas prendre leurs médicaments, qui ne peuvent pas aller chez le médecin. Là, je suis dans un hôtel, il y avait une dame âgée qui était un peu paniquée parce qu'elle avait un médicament essentiel qui a besoin d'être conservé dans le froid. Donc elle demandait des glaçons, sauf qu'il n'y a pas d'électricité, donc c'est compliqué pour elle. Et donc c'est quand même beaucoup de stress. Chacun essaie de faire, d'aller de priorité en priorité, donc c'est pouvoir être joignable, c'est pouvoir avoir l'électricité. Je suis pas forcément allé là où ça a frappé, tout au bord de l'eau, parce que c'était pas possible d'accès, mais j'imagine à quel point ça doit être dur pour ces personnes qui peuvent pas appeler qui que ce soit. Et on se sent vraiment, on a un sentiment de solitude, d'isolement qui est assez terrible.
Ouais, parce qu'il y a une partie des terres en fait qui reste en partie recouverte d'eau, hein, cette eau qui a considérablement monté avec le passage de l'ouragan, et cet ouragan qui a laissé aussi des débris véritablement partout. Alors à défaut d'être sur place, Lionel, il y a quand même les images qu'on commence à avoir de ces villes côtières totalement dévastées, où il ne reste quasiment plus rien. Hein.
Oui, et même les locaux, je pense, ne s'attendaient pas à quelque chose d'aussi violent. Les habitants de Floride vous disent, quand on habite en Floride, il faut faire avec. On sait qu'il va y avoir des ouragans. Mais là, effectivement, il était tellement lent. On le compare souvent à Mitchell en 2004, mais il était 3 fois plus lent. Donc ça veut dire que vous êtes 3 fois plus longtemps dans la machine, sous le rouleau compresseur. Donc il y avait rien à faire, quoi. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles étaient bloquées. Et effectivement, c'est vraiment des visions d'enfer pour ces gens qui ont dû vivre des moments vraiment terribles.
Bon, merci d'avoir été en tout cas ce soir en direct avec nous depuis la Floride, Lionel, après vos péripéties. Surtout, prenez soin de vous. Merci encore. Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir. Double discours de Vladimir Poutine aujourd'hui. Un premier au Kremlin en début d'après-midi, et il s'adresse en ce moment aux Russes depuis la Place Rouge. Pour résumer, depuis le début de la journée, son discours est celui-ci. C'est pas ma faute, c'est l'Occident. À tout de suite.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir. La Russie se dit donc un peu plus grande ce soir, et le Kremlin a décidé de le fêter.
Voilà, concert et drapeau russe sur la Place Rouge, où Vladimir Poutine vient de reprendre la parole, le maître du Kremlin, qui quelques heures plus tôt avait signé l'annexion de 4 territoires ukrainiens.
Les habitants ont fait leur choix, un choix sans équivoque. Et aujourd'hui, nous signons l'entrée dans la Fédération de Russie, des républiques de Donetsk, de Lugansk et des régions de Zaporijja et de Kherson. Et donc les habitants de ces 4 régions deviennent des citoyens russes pour toujours.
Bienvenue bienvenue aux Ukrainiens. C'est ce que vient de dire à l'instant d'ailleurs Vladimir Poutine sur la place rouge. Riposte immédiate hein, tout à l'heure du président ukrainien qui promet de continuer à libérer ses terres et son peuple. L'OTAN et Washington condamnent. L'Europe, elle, rejette l'annexion.
Les pays occidentaux, justement, pris pour cible depuis le début de l'après-midi par Vladimir Poutine. Il s'est exprimé alors tout d'abord au Kremlin pendant près d'une heure avant de reprendre la parole à l'instant sur la place rouge. Sophie Jousselin, double discours au relent de guerre froide.
Oui, un Occident colonialiste, un Occident qui pille le monde, qui veut imposer son hégémonie à la Russie, une dictature du dollar. Le président russe a eu des mots très durs contre les pays occidentaux, allant jusqu'à affirmer que leur comportement avait, je cite, les traits d'un satanisme explicite. De violentes critiques qui permettent à Vladimir Poutine de justifier l'opération spéciale et la récente mobilisation partielle auprès d'une population russe de plus en plus inquiète et alors que l'armée russe s'enlise en Ukraine. S'appuyant sur l'annexion des quatre nouvelles régions et avec ce discours fort, Vladimir Poutine a tenté de démontrer à sa population la puissance de la nation, assurant combattre la russophobie pour une Russie libre. Le président russe a également défendu les valeurs orthodoxes et dénoncé la négation des valeurs morales familiales occidentales. Il parlait là notamment des couples de même sexe. Un discours sans véritable annonce sur le conflit en lui-même. Vladimir Poutine a malgré tout accusé les pays anglo-saxons d'être à l'origine des explosions qui ont provoqué des fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2.
Et dans le conflit en lui-même, quelques heures avant ce discours, une frappe russe dans la région de Zaporijjia a fait 25 morts et des dizaines de blessés. C'est une colonne de véhicules civils qui a été touchée. À l'étranger, toujours, l'Iran vient d'annoncer l'arrestation de 9 étrangers, dont semble-t-il un ressortissant ou des ressortissants français, des étrangers impliqués, assure Téhéran dans les manifestations qui ont suivi la mort de la jeune femme kurde Mahsa Amini, accusée par la police des mœurs de ne pas être vêtue correctement.
Dans l'actualité aussi ce soir, une enquête classée sans suite et l'incompréhension d'une maman.
Qui, après le suicide l'an dernier de sa fille Dina, vous vous souvenez peut-être de son prénom, avait rapidement dénoncé le harcèlement scolaire dont elle était victime. Après 7 mois d'enquête, la procureure de Mulhouse a conclu que s'il y a bien eu des accrochages avec d'autres ados, rien, en revanche, ne permet d'étayer le harcèlement, d'où le classement sans suite que conteste aujourd'hui Samira, la maman de Dina, jointe pour RTL par Yannick Holland.
Le choc, la colère, la déception. Je ne veux pas dire que l'enquête a été bâclée, mais elle n'a pas été assez profondément fouillée. Voilà. Dès le début, on voit bien qu'il y a eu du harcèlement et on voit bien que Dina a cherché de l'aide auprès du collège. C'est très, 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 très difficile. Ce que je me dis, c'est que si la procureure classe l'enquête sans suite, dans ces cas-là, qui viennent me demander, moi, pourquoi j'ai raconté des choses aussi graves. Parce que ce que j'ai dit, c'est très grave. Ce que Dina a vécu, si c'est classé sans suite, ça veut dire que j'ai menti alors. Donc, qu'on vienne me demander des comptes.
Samira, la maman de Dina, avec Yannick Holland, la famille peut encore contester ce classement sans suite.
RTL Soir. Enfin, 89 millions de parties jouées chaque jour dans le monde. C'est un incontournable du jeu vidéo.
Et la sortie aujourd'hui de la dernière édition du jeu de foot FIFA, sur laquelle se sont évidemment rués ces joueurs que vous avez rencontrés dans ce magasin parisien, Vincent Serrano.
Où il est impossible de manquer cette pyramide de présentation. FIFA est partout, en bleu, blanc, en rouge. Il est même sur la télévision qui passe des images du jeu derrière. Et puis cette file d'attente devant la caisse qui ne désemplit pas, ça ne s'arrête jamais. Et notamment des très grands joueurs comme vous, Jean-David, c'est un incontournable.
J'ai grandi avec et c'est une sorte d'adolescence, on va dire. Ça fait 20 ans que je joue à FIFA et tant que j'arrive, je continue à battre mes enfants, je continue.
C'est ça le but du jeu maintenant aujourd'hui?
Un peu, ouais.
Donc on sera là en septembre prochain?
Ouais, avec un nouveau jeu.
Et puis il y a aussi beaucoup de parents comme vous, Annabelle, c'est ça, qui ont pas réussi à dire non à leurs enfants?
Ah non, mais j'ai jamais voulu dire non. Moi, c'était le cadeau d'anniversaire des 11 ans de mon fils et ça coïncide pile avec le jour de la sortie. Donc voilà, l'occasion était trop bonne en fait. On met des quotas de jeu, évidemment, parce qu'il est petit et que si on le laisse faire, je pense qu'il peut y passer la journée et la nuit. Donc voilà, donc c'est que le week-end. Voilà, on est hyper raisonnable sur le sujet.
Voilà, en tout cas, 30 000 ventes attendues ce week-end sur tout le réseau Fnac Darty. C'est le plus gros jeu vidéo en France.
Voilà,
quel week-end pour FIFA,
vue, c'est ça,
ça me rappelle la maison.
Et ça occupera le week-end pour ce qui est du foot. Explication ce soir dans RTL Foot, celle du patron des arbitres, Pascal Garibian, alors que depuis le début de la saison, le championnat de France a enregistré 34 expulsions. Expulsion contestée, on en était à 21 l'an dernier. Pour la première fois, il va donc invoquer ses décisions arbitrales.
On parlera des cartons rouges ce soir sur RTL. Pour l'heure, on va s'intéresser au temps avec vous, Valérie. Qu'est-ce qui nous attend demain ?
De la pluie qui arrive ce soir près des côtes de la Manche et qui va traverser le pays en allant vers le sud dans la journée de demain. Donc à l'avant, vraiment, entre les Pyrénées et la Méditerranée, le soleil va se maintenir. Et puis à l'arrière, l'après-midi, on peut espérer quelques éclaircies entre deux averses vers la Normandie, les Hauts-de-France, la Lorraine et l'Alsace pour tous les autres. Donc une très très grosse partie du pays. Le ciel sera bien chargé, les pluies fréquentes, assez copieuses, assorties de rafales de vent, et les températures seront à peu près stables, comprises entre 4 et 16 degrés au réveil et 14 à 26 l'après-midi, 18 degrés pour Charleville-Mézières, 21 degrés à Paris, à Nantes ou encore à Blois, 22 à Marseille et Ajaccio, et 24 degrés à Nîmes.
Merci Valérie. Une petite pause et puis on va décrypter les mots de Vladimir Poutine. Il annexe, il menace et il parle de discours, dont ce show à l'instant sur la place rouge. On va essayer de comprendre ce qu'il se passe en ce moment dans la tête du président russe et à quoi s'attendre avec Vladimir Fedorovski, ex-diplomate russe justement sous Gorbatchev. À tout de suite.
Jusqu'à 19h15,
RTL Soir avec Julien Cellier.
Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée avec RTL Soir, 18h20 et place au décryptage maintenant, parce que Vladimir Poutine a parlé et comme à chaque fois qu'il prend la parole, eh bien le monde se met quelque peu à trembler. Premier discours en début d'après-midi au Kremlin pour officialiser l'annexion de 4 régions ukrainiennes, puis chaud en ce moment avec concert, drapeau et quelques mots sur la place rouge où Poutine vient de déclarer « la victoire sera à nous ». Bonsoir Vladimir Fedorovski.
Bonsoir.
Vous êtes un ancien diplomate russe sous Gorbatchev. Alors, pas de surprise dans les discours de Poutine. C'est toujours la même.
Je n'aime pas le mot ancien. Je suis surtout écrivain d'origine russo-ukrainien le plus édité en Europe avec mes deux best-sellers, Poutine, l'Ukraine, les faces cachées. Je viens de sortir, évidemment, le roman d'une révolution, merci. Mais c'est vrai, vous avez absolument raison que Poutine, avec ce discours, a annoncé la couleur. Le premier mot, vous utilisez le mot décryptage, je pense qu'il s'agit d'une rupture définitive entre la Russie et l'Occident. Et la création d'une sorte de nouveau monde où il y aura une alliance entre la Russie et l'Asie, réorientation de la Russie vers l'Asie, Kissinger, l'autre jour, il a exprimé une sorte d'angoisse de la création d'un bloc militaire et économique entre la Chine et la Russie, j'aurais rajouté l'Iran, et d'autres choses. Vous comprenez, on vit une escalade sans précédent. Mon ami Gorbatchev, il disait l'autre jour, avant de partir, qu'on n'était jamais si proche de l'apocalypse.
Apocalypse, le terme est très fort, Vladimir Fedorovski. Expliquez-nous, quand l'annexion des 4 régions d'Ukraine, c'est un signal, vous l'avez dit, une rupture. Poutine nous dit, si vous y touchez, la Russie se défendra, et il ajoute, par tous les moyens. Alors, il ne formalise pas la menace nucléaire, mais elle est comme d'habitude sous-jacente. Est-ce que l'Ukraine doit craindre de telles frappes ?
Je vais vous dire, c'est pas un problème de l'Ukraine. Le problème, c'est l'évolution d'une manière générale. Le secrétaire général des Nations Unies, il a parlé de la banalisation de la menace nucléaire. Ça vient de tous les côtés. Vous comprenez, je vais vous dire, le problème là-dedans, si imaginons que l'Ukraine gagne le premier scénario. Il va aller jusqu'à la Crimée, il récupère tout, il prend la Poutine, comme ils disent, etc. Dans ce cas-là, je pense que Poutine, il va réagir par tous les moyens, comme vous dites. Si le notre scénario, le scénario de Poutine, qui se passe un peu dans nos yeux, il va aller plus loin à Donbass, il récupère Donbass, il va aller au-dessus, cette fois-ci, c'est les Américains qui interviennent. Ils me disent, on n'acceptera jamais la domination russe à la mer Noire, encore une fois la guerre mondiale, ou la guerre du jour. La guerre du jour avec les conséquences imprévisibles, l'Europe est dans le dos de la farce, la famine en Afrique, tout ce qu'on connaît par cœur maintenant, les sanctions qui ne marchent pas, tout ça c'est c'est aussi
Vladimir Fedorovski, vous parlez d'une rupture et vous nous décrivez le monde de demain qui est un peu le monde d'avant, et le discours de Poutine avait des vrais relents de guerre froide aujourd'hui. L'Ukraine, et ce n'est pas un hasard du calendrier, a demandé cet après-midi son adhésion accélérée à l'OTAN. Est-ce que ça veut dire que ça y est, la menace effraie Zelensky qui pendant des semaines nous a répété que Poutine bluffait?
Non, attendez, bluffer, ça c'est vraiment, on peut, il faut qu'on évite, vous savez, la guerre de la propagande. Tout d'abord, Poutine, sérieusement, ne bluffe pas. Deuxième chose, vous parlez qu'on retourne à la guerre froide. Vous rigolez. La guerre froide, il y avait des règles. Moi, j'étais diplomate pendant la guerre froide. Il y avait des règles, les gens ne mélangeaient pas la propagande et la politique réelle. Les gens ne mentaient pas, ils n'y croyaient pas.
Il n'y a plus de règles aujourd'hui, Vladimir Fedorovski.
Évidemment, mais tout ce que je faisais autrefois, vous savez, je travaillais encore avec Biden pour la création de 20 traités. Mm. 20 traités qui existaient. Aucun n'existe aujourd'hui. Il y a un seul qui vivait dans le domaine des armes stratégiques. Vous savez, il y avait des professionnels. Il n'y avait pas de mélange entre la propagande et la politique réelle. Tout ça, ça devait nous alerter. Jamais, je pèse mes mots, jamais, comme aujourd'hui, on était si près de ce que M. Guénon a appelé « on marche comme les somnambules vers la guerre mondiale ».
Merci Vladimir Fedorovski de nous avoir éclairé ce soir. Vous, l'écrivain russe et ancien diplomate, merci d'avoir été ce soir notre invité dans RTL Soir. Dans quelques secondes, la suite justement de RTL Soir avec un autre invité sur un tout autre sujet. L'ex-footballeur des Bleus, Vikash Dorasso, qui appelle l'équipe de France à sortir de son silence avant le polémique mondial au Qatar. Et puis laissez-vous tenter dernière avec le best-seller de Delphine de Vigan adapté au théâtre. On respire, une courte pause et on revient dans RTL Soir. À tout de suite.
RTL Soir.
Julien Cellier.
RTL.
RTL Soir, 18h29 minutes.
Julien Cellier.
RTL Soir.
Bonne fin de semaine, on continue de vous accompagner, de vous informer et Marion Calais se charge de vous rappeler les trois grands titres de l'actualité en ce vendredi soir.
L'arrestation en Belgique de l'imam Iquissen, l'imam du Nord qui avait pris la fuite il y a un mois après la validation de son expulsion par le Conseil d'État. À l'instant, Emmanuel Macron condamne fermement l'annexion illégale de quatre régions par la Russie. Annexion signée cet après-midi au Kremlin par Vladimir Poutine, le président russe qui est apparu sur scène pour un concert et une fête sur la Place Rouge avec cette phrase « La victoire sera à nous », réplique immédiate hein, au-delà d'Emmanuel Macron. Kiev promet de continuer à libérer ses terres. L'OTAN, de son côté, dénonce une élection illégitime.
Merci Marion. Le temps pour demain, pour dimanche, chère Valérie, ça va donner quoi ce week-end?
Ça va donner de la pluie qui arrive ce soir par les régions côtières de la Manche et qui va la balayer le pays demain dans la journée. Donc à l'avant quand même, ça restera ensoleillé entre les Pyrénées et la Méditerranée. C'est une dégradation qui passe assez vite, ce qui veut dire que demain après-midi, déjà quelques éclaircies viendront sur les régions les plus au nord, entre la Normandie, les Hauts-de-France et l'Alsace. Entre les deux, bon, là c'est raté demain, un ciel bien plombé, beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, des températures qui seront encore à peu près stables, comprises entre 14 et 26 degrés dans l'après-midi de la Haute-Savoie au Roussillon, avec 17 à Colmar, 18 à Lyon, 20 degrés à Lille, 21 à Paris, 22 à Toulouse. Dimanche, pour la moitié sud, c'est bouclé, tout va bien, retour du soleil un petit peu partout, un soleil certes un petit peu voilé quand même de la Gironde aux Alpes du Nord, mais ça ira. Dans la moitié nord, on aura toujours beaucoup de nuages, beaucoup de pluie vers les Hauts-de-France et la Normandie. Des températures qui vont partir légèrement à la hausse, du beau temps et du soleil qui se confirme pour la semaine prochaine. On va avoir un tout petit semblant de printemps.
Bon, bah vivement le lundi alors.
Voilà.
Très bien. Merci Valérie. Allez, on accueille un nouvel invité dans RTL Soir.
RTL Soir.
Allez, RTL Soir, toujours à vos côtés. Et ce soir, notre invité relance le débat. Est-ce qu'il faut ou non boycotter le Mondial au Qatar? Et puis, est-ce que l'équipe de France de foot doit faire du bruit, s'élever contre l'aberration sociale et écologique d'une compétition en plein milieu du désert? Bonsoir, Vikash Dorasso.
Bonsoir.
Vous êtes un ancien joueur de l'équipe de France. Désormais, vous êtes consultant à l'équipe. Vous appelez vos successeurs en bleu à désobéir, en tout cas à bousculer le monde du foot. Vous avez signé une tribune remarquée dans le journal Libération. Le titre: footballeurs, nous aussi, on se lève et on se casse. Mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique oui. d'imaginer les Bleus ou d'autres nations dire à 6 semaines du mondial, bon bah on se lève, on se casse et on n'y va pas.
Mais je ne parle pas trop du boycott en fait dans cette tribune. Par contre, je dis aux footballeurs, faites-vous entendre, organisez-vous. Là, on vous demande de vous positionner sur un sujet assez grave, quoi, l'écologie, les droits sociaux, bafoué au Qatar et pas que au Qatar. Alors qu'en fait, on ne vous a pas consulté au moment de l'attribution. Et qui attribue, c'est la FIFA. Donc à un moment, il faut aller regarder cette grande instance du football qui décide, comme ça, tranquillement, sur le coin d'une table, je ne sais pas trop comment c'est fait. Et donc il faut aller bousculer ces vieilles instances, ces technocrates qui, a priori, ont un autre vœu pour le foot. Ce n'est pas vraiment le développer, l'organiser comme c'est dans les statuts. C'est plutôt essayer de faire le maximum de fric très vite.
Alors vous dites aux joueurs, en clair... Exprimez-vous, mais on sent un malaise, un silence quand on interroge les joueurs sur le Qatar. Est-ce que les joueurs peuvent l'ouvrir aujourd'hui ? Vous écrivez dans votre tribune, le footballeur est payé assez cher pour accepter les coups de bâton sans broncher.
Alors il est payé assez cher aussi parce qu'il joue bien au football et donc c'est normal qu'on le paye très cher. Et puis après, il fait marcher toute une économie.
Ça veut dire que quand on est joueur, on n'a pas de liberté de parole ?
On a peu de liberté, moi je l'ai expérimenté. Hein. J'ai un peu ouvert ma bouche à un moment au Paris Saint-Germain, j'étais licencié parce que j'étais pas très très fort à ce moment-là. Mon contrat était se terminait, j'étais en fin de carrière. Donc voilà, évidemment, le joueur de foot est un salarié privilégié, célèbre. Riche, mais voilà, il accepte pas mal de contreparties, notamment de la fermer, ouais, de se faire taper sur les doigts par le bâton quand il ouvre un peu trop.
Donc ce que vous dites aux Bleus et aux joueurs de manière générale, c'est bougez-vous ensemble, parce que ça marchera, parce que ça a déjà fonctionné.
L'expérience la récente montre que quand ils s'organisent, quand ils sont ensemble, ça fonctionne. Les Américaines ont porté plainte contre leur fédération pour l'inégalité salariale, elles ont gagné. Récemment, Mbappé et ses copains se sont opposés à la Fédération française de foot
pour les droits d'image.
Les droits d'image, ils ont gagné. Les joueurs de Başakşehir, je ne sais plus comment, le Istanbul, Kitur, et le PSG, ils sont sortis du terrain, ils ne sont pas revenus. C'est l'UEFA a été obligé d'accepter.
Après des propos racistes.
Alors qu'habituellement, quand un joueur sort tout seul, il est puni. Colin Kaepernick aux États-Unis, le quarterback des 49ers, il pose un genou à terre seul. Il arrête sa carrière. Ouais.
Mais la question, c'est est-ce que les joueurs aujourd'hui, à quelques semaines du mondial au Qatar, ils ont vraiment envie de protester contre ce mondial ? Est-ce que vous avez échangé avec certains d'entre eux ? Est-ce que vous sentez qu'effectivement, il y a un malaise aujourd'hui chez les footballeurs ?
Alors, c'est difficile, hein, honnêtement. Moi, c'est facile, ma position d'ancien joueur, de prendre la parole. J'aurais aimé avoir le courage de dire quelque chose dans cette situation-là. J'espère qu'ils le feront. C'est difficile. En tout cas, là, je crois que Varane a dit qu'il porterait un brassard arc-en-ciel. Ouais. Voilà, ils ont une liberté de parole qui est très limitée. Alors, on fait croire qu'ils l'ont, mais ils ne l'ont pas vraiment.
Tiens,
c'est risqué.
Écoutez justement la ministre des Sports, c'était il y a quelques jours.
Les joueurs de l'équipe de France, c'est pas des hommes politiques, ils sont là pour jouer. Donc élever entre guillemets leur niveau de conscience en ayant des éléments d'information sur le contexte dans lequel ils vont évoluer, ça me semble souhaitable parce que on peut pas en appeler au discernement, à la maturité dans d'autres situations et ne pas les informer.
On a l'impression qu'Amélie Oudéa-Castéra, elle l'infantilise presque un petit peu, les joueurs de l'équipe de France. Ça vous dérange, ces propos ?
Ça me dérange un petit peu. Après, elle est dans son rôle de politique. Elle défend quand même un peu les joueurs de foot. Voilà, ils sont pas, c'est pas eux de prendre un peu... Mais en fait, oui, ils pourraient. Mais aussi, ils pourraient être consultés au tout départ. Ils pourraient, eux aussi, aller truster les postes de direction. Voilà, il faut présenter une liste à la Fédération française de foot. Il faut décider des dirigeants. Regardez, comment lutter contre le racisme quand on n'est pas touché personnellement ? Comment lutter contre l'homophobie ou le sexisme quand on n'est pas touché personnellement. Les joueurs de foot sont tous pratiquement issus des quartiers populaires, à 60% issus de l'immigration. Il n'y en a pas un dans les instances. Donc ils ne peuvent pas être représentés à un moment. Il faut qu'ils soient représentés, il faut qu'ils y aillent.
Juste sur le Qatar, on entendait la ministre à l'instant. Est-ce que le gouvernement, lui, doit boycotter le mondial ? Est-ce que la ministre ne doit pas s'y rendre ?
Ah, c'est compliqué tout ça. J'aimerais qu'il prenne une position, qu'il soit courageux aussi. C'est trop facile de botter en touche. Elle parle beaucoup des footballeurs, mais elle ne dit rien de ce qui va se passer. Alors François Hollande, lui, a dit, moi, si j'étais président, mais il n'est plus. On saura jamais ce qu'il aurait fait. C'est très très compliqué. Mais c'est vraiment, plus que l'attribution, c'est qui attribue.
Et vous allez regarder ce mondial ou est-ce que comme Eric Cantona, vous allez éteindre la télé?
Je travaille pour l'équipe et Canal Afrique. A priori, je vais commenter. Voilà, je suis au courant de ce qui s'y passe. On peut s'exprimer, prendre des positions. Mes positions sont claires. C'est une aberration écologique et sociale. Et évidemment, le prochain mondial, ce sera Mexique et Canada. Dans un pays, l'Amérique, où les droits à l'IVG sont bafoués et la peine de mort appliquée. Voilà, c'est comment on gère tout ça.
Merci Vikash Dorasso d'avoir été ce soir notre invité sur RTL.
Merci.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Et RTL Soir continue à 18h36.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière maintenant. Alors avec lui, d'habitude, nous parcourons les librairies, mais ce soir, Bernard Lehu a décidé de nous emmener au théâtre. Bonsoir Bernard.
Bonsoir à tous.
Alors plus précisément, petit crochet à la Comédie Française maintenant, où fait rare, une écrivaine est jouée de son vivant et il s'agit de Delphine de Vigan.
Oui, son roman Rien ne s'oppose à la nuit est interprété seule en scène par la comédienne du Français Elsa Lepoivre. Immense succès, hein, publié en 2011. Le texte raconte l'histoire de la famille de Delphine de Vigan, plus particulièrement le destin tragique de Lucille, la mère bipolaire de l'auteur qui se met également en scène racontant les difficultés, les doutes à écrire un livre si intime.
Mais alors Bernard, comment transformer en un spectacle d'1h20 un roman de près de 500 pages avec de très nombreux personnages et une matière aussi sensible ?
Eh bien, écoutez la réponse de Delphine de Vigan qui a adapté elle-même son texte avec Elsa Lepoivre.
Quand j'ai commencé à me replonger dans le roman, je me suis dit mais en fait c'est impossible de rendre compte de la totalité du texte. Donc il faut absolument qu'on choisisse un angle. Moi, j'avais eu assez vite l'idée de me concentrer sur deux choses, sur l'enfance du personnage et sur la genèse du texte qui est présente dans le roman. Donc, sur la jeunesse et sur la genèse. Et on s'est vraiment centré là-dessus, sur la quête de l'écrivain en train d'écrire ce livre à la recherche de la vérité de ses souvenirs et de la vérité de l'écriture, sachant que ni l'une ni l'autre n'existent.
Et l'écrivaine et la comédienne ont donc agencé des fragments de Rien ne s'oppose à la nuit sur une mise en scène d'une remarquable justesse de Fabien Gorgeard.
Et vous l'avez vu alors, Bernard ?
Eh bien alors, le résultat, il est bluffant, c'est bouleversant, parce qu'Elsa Lepoivre est aussi une grande comédienne qui se glisse magnifiquement dans les mots et la peau de Delphine de Vigan.
Ce qui est devenu évidemment assez troublant quand je l'ai vue pour la première fois sur scène, parce qu'il y a une espèce d'effet de miroir. Je me suis dit, pour tout vous dire, il n'y a pas que les écrivains qui sont des vampires, les comédiens aussi. Enfin, elle ne s'en cache pas. Elle s'est inspirée de moi pour certaines choses, et donc ça crée effectivement quelque chose d'un peu troublant.
Et on ressort du spectacle en se disant que Rien ne s'oppose à la nuit est définitivement un grand texte pour passer aussi bien la rampe.
Vous savez, moi j'écris beaucoup à voix haute, je travaille beaucoup le son du texte. La première chose que je fais le matin quand je rallume mon ordinateur et mon fichier, je relis à voix haute ce que j'ai écrit la veille et je le fais de manière très obsessionnelle. Donc c'est vrai que j'étais heureuse d'entendre dans certains cas des choses que je cherche dans l'écriture, de les entendre si bien porté par Elsa.
Rien ne s'oppose à la nuit, fragment de Delphine de Vigan, interprété par Elsa Lepoivre. C'est au studio de la Comédie Française jusqu'au 6 novembre.
Et vous avez éveillé la curiosité de tous ceux qui ont dévoré ce livre. Merci beaucoup pour cette découverte ce soir, cher Bernard.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et RTL Soir, la suite, c'est dans quelques secondes. On va refaire nos régions maintenant. Comme chaque vendredi, ce sont les 20 minutes sympas et près de chez vous avec Marion, mais aussi avec les correspondants de RTL un petit peu partout en France. On va vous proposer une très très jolie rencontre en Charente-Maritime. On va aller rencontrer Zaza aussi, l'autruche de la Discorde dans le Pays Basque. Et puis, puisque Marion a faim, eh bien nous dégusterons une tarte aux myrtilles au sommet des Vosges. Ça vous va, Marion ?
Super.
Allez, à tout de suite sur RTL.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.